Radio Okapi.
Les informations avec Belinda Bosuma.
Incursion ce matin dans au moins 10 villages de Manyarikilo à Nituri, une œuvre du groupe armé Codeco. Bilan provisoire, 11 morts et plusieurs dégâts matériels. Les FARDC sont intervenus pour repousser l'ennemi, indiquent des sources sur place. 5 leaders de l'opposition qui se disent candidats à la prochaine présidentielle se réunissent aujourd'hui à Lubumbashi. Martin Fayulu, Matata Ponyo, Frank Diongo, Delice Sanga et Moïse Katumbi affirment que c'est pour formaliser leur combat pour l'alternance à la faveur des prochaines élections. Et puis, le président national de la Croix-Rouge, RDC, plaide pour que le gouvernement puisse doter la structure Croix-Rouge des moyens techniques, logistiques et financiers. Matesso Grégoire l'a exprimé hier à Bukavu. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Au moins 10 villages ont été attaqués ce vendredi matin par le groupe armé Codeco dans la chefferie de Banyarikilo, territoire de Djougou. Des sources concordantes avancent un bilan provisoire de 11 morts parmi les civils. Plusieurs dégâts matériels sont également enregistrés, notamment l'incendie des maisons et le pillage des biens de la population qui est en débandade. Les FARDC sont intervenus pour repousser l'ennemi et les combats se poursuivent dans la région. Le récit de Isaac Grémoyopé.
Des miliciens de la Codeco sont venus en grand nombre de leurs bastions de Petit, Bambou, Nyangaraï, Mbaou et Digene. Ils ont attaqué simultanément ces vendredis vers 6h au moins une dizaine de villages de la chefferie de Banyarikilo. À Matete, à 6 km de la commune rurale de Mungwalu, ils ont tué 7 personnes à leur passage, précise l'autorité municipale. Les FARDC sont arrivés au lieu des drames pendant que ces miliciens s'étaient déjà retirés. D'autres villages qui ont été la cible d'attaque de ces assaillants sont notamment Kilo Etak, Bado, Itendei, Abombi et Ouazabo, environ 55 km au nord de Bounia dans les territoires de Djougou. Les bilans provisoires dans ces entités de 4 morts, dont 3 à Kilo et un autre à Bakonde. Plusieurs maisons ont été également incendiées et des maisons pillées par ces assaillants. Un déplacement massif de la population s'observe aussi dans la zone, malgré l'intervention des FARDC pour repousser l'ennemi. Certains acteurs politiques locaux et de la société civile demandent au gouvernement de lancer une opération de grande envergure contre les groupes armés réfractaires au processus de paix, en vue de les contraindre à déposer les armes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la Turquie compte accroître sa coopération militaire avec la RDC afin de l'aider à combattre le séparatisme. C'est ce qu'a fait savoir l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, accrédité en RDC, Murat Uyku. C'était au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, hier à Kinshasa. D'après l'ambassadeur turc, pour avoir vécu des défis similaires au niveau des menaces asymétriques par le passé, son pays veut non seulement accompagner la RDC, mais également partager ses connaissances en passant à la phase d'implémentation des différents accords qui existent déjà. On écoute l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie, accrédité en RDC, Murat Uyku, dans cet extrait que nous propose Jacques-Yves Molima.
Nous sommes tout à fait déterminés à continuer à accompagner la RDC en face de tels défis. Comme vous le savez, nous avons plusieurs accords déjà signés et maintenant nous nous préparons pour la phase d'implémentation, je dois dire. Et avec son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, on s'est mis d'accord de continuer notre dialogue de façon très étroite pour pouvoir procéder à plusieurs activités concrètes. Vous allez voir dans la période à venir qu'il y aura par exemple une usine de munitions qui sera établie par le côté turc à Likasi. Il y a aussi d'autres projets qui sont en cours et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir procéder à l'étape dans laquelle nous pourrons admettre les étudiants congolais dans nos académies de guerre. C'est important pour la formation des cadres des FARDC et nous allons aussi continuer pour parler au niveau de l'équipement, des dons militaires. Voilà.
Par ailleurs, il faut absolument aller vers un retrait total et complet des positions que le M23 occupe maintenant et que ce groupe soit aussi admis dans le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi pour Jean-Marc Châtaignier. L'Union européenne suit et souhaite accompagner les efforts des organisations régionales pour le retour de la paix dans la région. On écoute l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier au micro de Jacques-Yves Molima.
C'est une situation que nous suivons évidemment de très près. L'Union européenne soutient totalement et complètement les processus de Nairobi, de Luanda, leur complémentarité. Je resterai très prudemment optimiste, mais nous voyons quelques signes concrets de retrait pour l'instant du M23 qu'il faut absolument accompagner. Et il faut absolument aller vers le retrait total et complet des positions qu'il occupe maintenant. Et il faut, bien sûr, entrer pour ce groupe aussi dans un programme de démobilisation, désarmement, réinsertion. À ce stade, je ne veux pas être trop optimiste. Je suis modérément optimiste en disant il y a des petits mouvements qui se produisent. Et donc, nous, nous souhaitons accompagner ces petits mouvements, accompagner les efforts des organisations régionales, du président Lorenzo qui a reçu hier le président Tshisekedi, du président Ruto, du président Kenyatta, qui suit beaucoup cette question. Vous savez que c'est long, c'est compliqué, il faut vraiment être prudent.
Je vous l'ai dit dans les titres, 5 leaders de l'opposition, tous des candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle, se réunissent ce vendredi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour formaliser leur combat pour l'alternance à la faveur des prochaines élections. C'est notamment Martin Fayulu de l'ECID, Augustin Matata Ponyo de Leadership et Gouvernance pour le Développement, Franck Diongo de MLP, Délice Sanga de Envol et Moïse Katumbi de Ensemble pour la République. Cadre choisi, le centre Aroupé de Lubumbashi. Reportage de Jean Gandou, rendu par Piro et Lamengi.
C'est depuis le matin que les sympathisants de ces formations politiques se sont présentés sur les lieux de la manifestation, chacun arborant les signes distinctifs de son parti politique. La plupart se disent heureux que ces leaders de l'opposition se réunissent en prévision des prochaines joutes électorales. Au-delà de la cérémonie de ces jours, certaines personnes voudraient que ces leaders se mettent vite au travail car le compte à rebours en vue des élections de décembre a déjà commencé. Il faut donc rattraper le retard et se ranger en ordre de bataille, souhaitent-ils. Pour d'autres personnes, la rencontre de ces jours n'est que l'officialisation de ce qui s'y tramait depuis longtemps. Les contacts ont commencé il y a plusieurs semaines à travers les émissaires de ces leaders politiques. Cependant, avant le coup d'envoi de la cérémonie de ces jours, nombreuses personnes se posent la question de savoir sous quel label vont évoluer ces leaders, quels seront leurs objectifs, comment vont-ils évoluer. Les réponses à toutes ces questions pourront être trouvées à l'issue de ce que les organisateurs appellent les assises de l'opposition politique.
Dans l'actualité aussi, cette cacophonie à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Deux plénières séparées ont été tenues par deux groupes de députés provinciaux différents en deux lieux différents. Le tout est parti de l'installation des deux bureaux d'âge, dont le premier a siégé à l'hémicycle de la Botte dans la commune d'Ibanda. Ce bureau d'âge a examiné les pétitions initiées contre les membres du bureau définitif. En conclusion, la pétition contre le président Zachary Luamira a été rejetée, les deux autres membres du bureau étant absents. Ainsi, le président Luamira a présidé la plénière qui a examiné la motion de censure contre le gouvernement provincial, motion qui a fini par être rejetée. De l'autre côté, un autre bureau d'âge a siégé à l'hôtel Ruzizi au quartier Ngouba. Les députés présents ont examiné les pétitions contre les membres du bureau, dont le vice-président et le rapporteur. Toutes ces pétitions ont également été rejetées. Visiblement, on assiste à présent à deux assemblées provinciales différentes au sud Kivu. Direction la province du Maniema. En cette période de Ramadan, pour les musulmans du monde entier, ceux se trouvant dans la prison centrale de Kindu ont été assistés hier en vivre et non vivre, dont du chef d'entité islamique de la Comico Maniema, Cheikh Saleh Idi Manoussoura, à ses frères et sœurs qui sont incarcérés, une manière de compatir avec eux, dit-il. Florence Kiza, reportage.
Ces dons constitués d'une quantité importante de sacs de riz, des braises, de sucre, de sel, des haricots, des farines de maïs, d'un bidon d'huile de palme ainsi qu'une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé à la presse arrivent à un bon moment où cette prison connaît une carence alimentaire. Maître Idi Barouani Baron, conseiller chargé des questions juridiques à la Comico, explique les motivations.
Pour l'imam, chef d'entité de la Comico Maniema, chez Idi Saleh Mansour, cette visite s'inscrit dans le cadre d'assistance de manière à compatir ensemble avec ces prisonniers musulmans qui sont habitués à bénéficier de l'assistance de l'imam chaque période de jeûne de notre mois sacré de Ramadan. C'est pourquoi vous voyez devant vous quelques quantités de vivres, y compris une enveloppe pour permettre aux prisonniers musulmans de terminer leur jeûne dans de très bonnes conditions et pourquoi pas aux autres prisonniers qui ne sont pas musulmans d'en tirer bénéfice.
Ces dons serviront non seulement les musulmans, mais tous les locataires de cette maison carcérale, plus de 450 au total. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Situation humanitaire précaire dans le camp des déplacés de Kwamout, province de Maïndombe. Reçus dans la province du Kwango, au moins 185 nouveaux enfants non accompagnés sont identifiés par les services des affaires sociales. Il s'agit en majorité des enfants âgés de 2 à 5 ans et plus, dont les parents ont disparu après l'attaque contre le village Kinsele dans le territoire de Kwamout. Ils ne vont plus à l'école et manquent de tout. Le président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango, Lucien Lufutu, qui alerte, plaide pour une assistance urgente du gouvernement en faveur de ses enfants. Lucien Lufutu est au micro de Irène Boma.
La situation des enfants non accompagnés parmi les enfants déplacés de Kwamout et ses environs est tellement grave que nous avions intérêt de nous prononcer pour solliciter leur assistance. Ainsi, parmi les 4891 enfants déplacés vers le Kwango, nous comptabilisons en ce moment plus de 185 enfants non accompagnés par le fait que leurs parents étaient pourchassés et se déplacer sans tenir compte des enfants qu'il fallait protéger. Ces enfants se retrouvent à l'entrée de la province du Kwango et ont besoin d'une assistance humanitaire holistique. Voilà pourquoi le cadre de concertation provinciale de la société civile plaide en vue d'une assistance holistique de ces enfants dont le problème de scolarité se pose, surtout que leurs lieux de logement ne sont que des églises, des écoles, des bars.
Retournons au Sud Kivu. Le centre de médecine légale des cliniques universitaires de l'université officielle de Bukavu, UOB, sera bientôt doté des infrastructures modernes. Sa construction et l'équipement de son laboratoire ont été rendus possibles grâce à un financement de la MONUSCO à travers le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est ainsi que la première pierre de cet édifice a été posée hier dans l'enceinte des cliniques universitaires par le chef de division provinciale de la santé et la chef de la MONUSCO Sud Kivu. Reportage de Cynthia Bachi.
Ce centre s'étale sur 12 mètres sur 30. Son aménagement prévoit un laboratoire d'analyse, 3 bureaux, une salle de réserve pour stocker le matériel ainsi que des sanitaires. Coût des travaux, $69,545 américains pour une durée de 6 mois, financé par la MONUSCO et mis en œuvre par l'ONG SOS IGM. Une première dans l'espace Grand Kivu. Professeur Philippe Kachunga, médecin directeur des cliniques universitaires de Bukavu.
On va rechercher les causes de violence, les causes de décès, de meurtres, des suicides, d'accidents, pour donner à la justice des preuves suffisantes pour que cette justice prenne en fait des décisions qui sont correctes. Mais il y a aussi des problèmes familiaux, par exemple déterminer la paternité, un test ADN.
Pourquoi la MONUSCO a répondu favorablement à la demande de financement de ce centre d'expertise médico-légale? Cécile Piazza, chef de la MONUSCO Sud Kivu.
Le projet s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO qui demande à la mission de renforcer les institutions de l'État, notamment en le dotant de capacités opérationnelles, professionnelles et responsables, notamment dans le secteur de sécurité et de la justice.
L'UOB plaide aussi pour la construction d'une morgue sur son site qui viendrait rendre l'infrastructure complète. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La justice marocaine alourdit en appel ce vendredi les peines de 3 hommes accusés de viol à répétition sur Sanaé, une mineure âgée de 11 ans au moment des faits. L'un des accusés a été condamné à 20 ans de prison ferme et les deux autres à 10 ans chacun. Le 20 mars, ils avaient écopé de peines dont la clémence avait choqué l'opinion publique du pays. Sanaé, une mineure de 11 ans au moment des faits et qui en a 12 aujourd'hui, a subi des viols à répétition sous la menace dans un village près de Rabat, ce qui a entraîné une grossesse, selon des ONG de défense des droits des femmes. Nous sommes satisfaits du verdict qui a rendu justice à la victime. Ceci dit, nous n'avons pas compris pourquoi deux accusés ont écopé de 10 ans chacun seulement, a déclaré à l'AFP l'un des avocats de la victime à la sortie du tribunal, précisant qu'il envisage le pourvoi en cassation après concertation avec la famille.
L'invité.
Le président national de la Croix-Rouge RDC plaide pour que le gouvernement puisse doter des moyens techniques, logistiques et financiers à la structure Croix-Rouge qui est la propre émanation de l'État congolais. Matesso Grégoire a fait ses déclarations à Bukavu où il est allé participer à l'Assemblée provinciale ordinaire de la Croix-Rouge RDC section Sud-Kivu. Toutefois, il dit apprécier le partenariat qui existe entre la Croix-Rouge RDC et les Croix-Rouges françaises, luxembourgeoises et espagnoles. Matesso Grégoire s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le Président national de la Croix-Rouge Congo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de Kinshasa juste présider aux cérémonies de l'Assemblée générale de la Croix-Rouge du Congo en province du Sud-Kivu. Mm-hmm. Comment se porte la Croix-Rouge en général sur l'étendue de la RDC avant de chuter sur le Sud-Kivu?
La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo se porte bien. Vous avez des signes qui nous disent, à faire cette cotation-là, nous avons déployé, avec ce que vous connaissez dans notre pays, les volontaires sont sur place, sont sur le terrain, ils sont avec les communautés, ils posent les gestes. C'est-à-dire, là où il y a eu des problèmes qui nécessitaient la présence de la Croix-Rouge, nous avons toujours été là-bas. Dans le sens que il faut aller là où il y a des problèmes, vous verrez, qu'est fait la Croix-Rouge? Qu'a fait la Croix-Rouge? Vous verrez, les gens qu'on a aidés vont vous dire que c'est parce que la Croix-Rouge était là, on a fait ça. Donc nous sommes présents et moi, je suis fier de ça avec nos volontaires. Ils sont dans des villages. Et lorsqu'il y a des problèmes, il n'y a que la Croix-Rouge qui peut poser des gestes. Donc nous sommes en action, nous disons que nous comportons bien. Nous avons beaucoup d'activités, nous avons beaucoup à faire, mais on a peu de moyens. Ça, c'est notre première faiblesse.
Et si vous quittez le niveau national et descendre au niveau de la province du Sud-Kivu?
Nous allons regarder derrière, quand nous avions fait ces gestes-là, est-ce que c'était bien fait? Qui nous avons assisté? Comment nous les avons assisté? À quel mode de gestion? Est-ce que nos principes sont respectés vis-à-vis de nos compatriotes? Est-ce que l'État congolais approuve ce que nous sommes en train de faire sur terre? Est-ce que la communauté que nous aidons approuve ce que nous posons comme geste par rapport à ce qu'ils ont, les détresses et tout ça? Donc c'est ce que nous allons faire. Nous nous réunissons à des assemblées. Il y a l'assemblée générale ordinaire et élective après 5 ans. Ordinaire, c'est pour analyser ce que nous avions fait hier et qu'est-ce que nous projetons pour demain. Et les partenaires qui viennent nous appuyer, quels sont les rapports par rapport à ce que nous faisons? Les renforcements des capacités, à quel degré nous sommes arrivés?
Dans votre mot de circonstance, monsieur le président, on vous a entendu jeter des fleurs sur l'équipe de la Croix-Rouge du Congo, au site Kivu. Qu'est-ce qui vous a fait dire cela?
On les voit à l'œuvre, c'est pas moi simplement. C'est ceux qui reçoivent le message, le geste de la Croix-Rouge qui nous disent. C'est ceux qui nous regardent, c'est le gouvernement, c'est les partenaires et les autres qui nous observent. Au site qui vous haït, des grandes inondations. Au site qui vous ne pouvez pas écarter ce qu'on a connu comme petit problème, on a envie les volontaires à l'œuvre. Cela nous apporte. C'est difficile de nous donner des points nous-mêmes, mais ils nous disent en tout cas, les volontaires sont là. Et nous sommes là sur terrain, nous voyons. Parce que nous sommes en train de suivre, nous avons un programme stratégique de développement, nous avons un programme de réponse aux catastrophes. Quand nous suivons ce qui se passe, nous disons nous sommes en règle et le site qui vous est complètement et totalement en règle avec ce que nous faisons comme travail.
La qualité du travail fourni par la Croix-Rouge du Congo n'a jamais été contestée, mais au regard des moyens qui s'en suivent, ils sont quand même les parents pauvres de la République. Est-ce qu'il y a des stratégies pour essayer de relever le niveau de vie de ces hommes et femmes qui se donnent corps et âme pour le bien-être d'autrui?
C'est pas nous, c'est le gouvernement. Il doit donner des moyens à sa Croix-Rouge pour aider les autres. Avec les partenaires, c'est la diplomatie humanitaire que nous faisons. C'est comme ça que vous voyez les partenaires. Construire des abris à quelques kilomètres ici, construire des écoles pour les enfants. On est allé parler aux partenaires qui peuvent nous aider. Nous avons un problème d'éducation des enfants. Ils n'ont pas des classes, ils n'ont pas tout ça. Ils nous écoutent. Mais pour le gouvernement, ils financent, ils donnent des moyens. S'ils ne donnent pas, c'est ça la difficulté que nous avons. La difficulté de ne pas voir, apprécier ce que les volontaires font parce qu'ils sont limités de moyens. Et ces moyens doivent venir. Premier partenaire, c'est le gouvernement. Lui qui a créé depuis 1961 sa Croix-Rouge. Il a donné la mission et il doit donner aussi des moyens.
Monsieur le Président national de la Croix-Rouge du Congo, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Matesso Grégoire répondait aux questions de Jean Kassami. C'est la fin de ce journal, coordonné par Piero Elamengi, supervision de Alain Rungmushinj, à la mise en onde Polydor Basunga. Merci d'avoir été des nôtres.